Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Pour votre info, est présenté par Desjardins.
Cette semaine, on découvre deux entreprises qui ont pour mission de sauver la planète.
Les gens disent, est-ce que tes plats sont recyclables? Est-ce qu'ils sont compostables? Est-ce qu'ils sont bons pour l'environnement? Mais en même temps, ils ne savent pas ça veut dire quoi. Ils pensent que si on jette dans la poubelle, ça va se désintégrer par lui-même.
Rencontre avec Michel Wong de Beau et Elisabeth Coulombe de Terreau. Je m'appelle Laurent Thérien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu parler d'entrepreneuriat d'impact? C'est une des nombreuses solutions dont on a besoin pour s'attaquer aux immenses défis qui nous attendent sur le plan environnemental. Le problème, c'est juste qu'il n'y a pas de définition de ce que ça veut dire, l'entrepreneuriat d'impact. De manière générale, on s'entend pour dire que ce sont les entreprises qui font pas seulement que réduire leur empreinte carbone, mais qui ont la protection de l'environnement au cœur de leur mission. Une chose est sûre, on les reconnaît, les entreprises et les entrepreneurs d'impact, quand on les rencontre. Ça, c'est clair, on en a deux exemples cette semaine. Michel Wong, bonjour.
Bonjour, Laurent.
Merci d'être avec nous en studio. On enregistre cet épisode dans la tempête totale. Alors, merci d'avoir accepté de te déplacer, d'avoir bravé le froid pour nous. Elisabeth Coulombe, bonjour.
Allô, Laurent.
Salut. On te rejoint depuis Québec, Elisabeth. Pas que tu ne voulais pas venir nous voir à Montréal, mais ça fait un peu loin, faire 3 heures de voiture pour venir nous voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Elisabeth, tu es la cofondatrice de Terreau. Vous avez inventé, toi et ta cofondatrice, un produit assez révolutionnaire. C'est une espèce de petit appareil de comptoir qui fait du compost à partir de matière organique en quelques heures. On va y revenir dans un petit instant. Michel, tu es entrepreneur, tu es fondatrice de l'entreprise Beau. J'adore ça, B-O, tout simplement, c'est très simple, qui fait des contenants réutilisables pour les restaurants. Michel, j'aimerais qu'on commence cette entrevue-là ou cet échange-là avec ton histoire, si tu veux bien. Ton histoire commence pendant la pandémie. Tu travailles dans une entreprise, à ce moment-là, de distribution de détergents et de lave-vaisselle pour les restaurants. Et évidemment, ben là, la COVID frappe, ça fait mal à tout le monde. Et là, pour trouver des revenus, vous vous mettez à distribuer toutes sortes de produits, des masques, du désinfectant et des plats pour des restaurants. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, on pensait que vendre les produits d'assainissement pour les restaurants, pour louer des lave-vaisselles, c'est un business qui ne va jamais être touché. Ouais. Alors, on pensait que même si les restaurants s'ouvrent ou ferment, on aurait toujours des clients à faire du service, mais avec le COVID, les salles à manger ont été fermées. Mm-hmm. Alors, si les gens ne mangeaient pas en salle, on se disait, ils mangeaient à la maison avec un service de main à emporter. Alors, de là, on a fait des recherches pour trouver les bons produits qui sont les plus populaires sur le marché. Et bam, on a commencé à les vendre. Alors, c'est rien de fancy. On parle des plats qui sont jetables.
Des plats en styromousse blanc, là. Les plats...
On n'est jamais rentré dans le styromousse.
OK.
On a commencé avec des différents formats en plastique. On a commencé avec des bols en carton. Mais c'est drôle que vous avez mentionné le styromousse parce qu'à ce point-ci, je n'étais pas encore très, très conscient de l'environnement et de l'impact. Mm-hmm. Mais on n'a jamais pensé à rentrer dans le styromousse par instinct.
Parce que ça, c'était trop, là. Ça, c'était vraiment...
Ouais.
C'était impensable. Sauf qu'il arrive un point où, et je t'invite à me tutoyer, Michel, il arrive un point où tu réalises que tous tes contenants s'empilent dans l'entrepôt puis tu te dis, mais mon Dieu, je suis en train d'avoir un impact nocif pour l'environnement, finalement.
C'est ça. Alors, moi, j'étais la personne qui faisait les commandes. Alors, à ce point-ci, c'est vraiment... On veut survivre. On veut que la compagnie survive. Alors, on vend ces plats-là. Et tout ce qu'on a dans l'entrepôt, c'était pas les savons qu'on vendait avant. C'était les boîtes et les boîtes et les boîtes de plats qui sont déjà bien entassés dans les caisses qu'ils viennent. Et chaque semaine, tout ce qui sont dans l'entrepôt sort, on les vend et on fait le plein avec d'autres emballages qui sont dans des boîtes complets. À un moment donné, je me suis dit, ah ben, ça prend beaucoup d'espace, ça, et on le fait même pas au sérieux. Ça, c'est quelque chose de côté qu'on fait pour faire de l'argent. Mmh. Alors, si tout un entrepôt de 3 000, 4 000 pieds carrés rempli de stock se vide par semaine, où se trouvent tous ces déchets?
À l'enfouissement.
Ben, on ne sait pas. Ça se peut que ça brûle, ça se peut que c'est recyclé, mais après un petit peu plus d'enquête, je me suis retrouvée avec des données pas mal terribles, là, que quand on parle de recyclage, il y a 9 % des matières plastiques qui sont vraiment recyclées au Canada, là. Alors, on appelle ça en anglais le « wish cycling ». Quand tu mets quelque chose dans le bac de recyclage, on souhaite que ça va être recyclé, mais en fin de compte, il y a 1 sur 10 bouteilles à peine qui va être recyclée vraiment. Alors, à ce point-ci, je me suis dit, on est une compagnie qui vend du savon, des lave-vaisselles, pourquoi pas des plats qui seront lavés? Alors, voilà l'idée beau.
Alors, explique-nous comment Beau fonctionne. Donc, les plats sont vendus au restaurant. Il y a une espèce de plateforme sur le web qui permet de les commander. Comment ça fonctionne?
Alors, Beau avait commencé avec un concept fixe. C'est exactement ce que vous avez dit. On avait choisi les plats, on a développé un appli et on s'est dit, la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir ces contenants-là à certaines valeurs, de les faire prêter, emprunter gratuitement par l'appli. Et de les circuler avec un service de retour d'un logistique inversé qui est fait par Beau.
OK.
À fur et à mesure, on a décidé que on a trouvé qu'il y a beaucoup de fournisseurs de services alimentaires qui ont des besoins différents. Alors, on est devenu un peu plus modulaire. On peut acheter les plats, on peut louer les plats, on peut choisir des produits haut de gamme, on peut choisir des produits qui sont plus standards. Alors, il y a beaucoup d'options pour le réemploi et il y a tellement d'opportunités à cause que c'est un produit qu'on peut innover vu que ce n'est pas utilisé une seule fois.
Mm-hmm. Mais le plat réutilisable, vous offrez aussi le service où vous pouvez le laver, ce plat-là, pour le restaurant.
C'est exact. Alors, on est devenu modulaire. On a les éléments dont les fournisseurs alimentaires auront besoin pour sortir une option de plat réutilisable. Alors, soit qu'ils les lavent eux-mêmes ou on a développé un entrepôt lavabo qui fait le lavage pour soit nos plats ou même pour les produits qui sont réutilisables d'autres compagnies qui veulent rentrer dans le réutilisable, mais veulent maximiser peut-être notre économie d'échelle.
Tu pensais te sortir de la business du détergent après la pandémie, mais tu n'as pas réussi.
On utilise plus de détergent que jamais.
Mais pour une bonne cause, cela dit. Elisabeth, bon, ton point de départ est très différent de celui de Michel. Dans ton cas, on parle de compost et non pas de recyclage. Mais l'idée de terreau te vient à l'université, elle te vient sur les bancs d'école en 2016. Raconte-nous le point de départ de terreau.
En fait, c'est pas si loin parce que nous aussi, on fait du recyclage de déchets alimentaires.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Mais en fait, c'était lors de mes études en design de produits à l'Université Laval avec Valérie. En fait, dans le cadre de notre projet de fin d'études, on devait sélectionner une problématique quelconque puis répondre en créant un produit. Puis, toutes les deux, on a décidé de travailler sur la problématique de la gestion des déchets alimentaires à la maison puisqu'on vivait plusieurs... En fait, on se sentait impuissante puisqu'on n'avait pas de solution de compostage. On était toutes les deux situées à Québec. Il n'y avait pas de collecte de compostage. On était en appartement. Donc, pas accès à une cour extérieure pour pouvoir composter à l'extérieur. Donc, bref, il n'y avait comme aucune solution. Puis, nos déchets organiques, nos déchets alimentaires, on devait simplement les jeter puis ils s'en vont au site d'enfouissement. Quand tu comprends l'impact négatif des matières organiques dans les lieux d'enfouissement, ben, tu veux faire quelque chose, mais tu n'as comme pas vraiment de possibilités. Donc, on a décidé de travailler sur cette problématique-là dans le cadre de notre bac. Puis, on a rencontré différents intervenants. Donc, on a été visiter des sites d'enfouissement, justement, des incinérateurs, des centres de tri, des centres de compost, pour vraiment comprendre tout ce qui se passe à la gestion des déchets en soi, parce qu'on ne se connaissait pas nécessairement à ce niveau-là. Puis, on a également rencontré beaucoup de citoyens pour comprendre pourquoi qu'eux, à la maison, ils compostent pas. T'sais, nous, on avait notre histoire à nous, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui vit les mêmes réalités. Puis, en fait, ces différentes rencontres-là nous ont amené à avoir des critères de design qu'on a utilisés pour créer le concept de terreau. Puis, c'est le projet qu'on a proposé à la fin de notre baccalauréat en design de produits. Mmh. Puis, on a participé à plusieurs expositions à la suite de ça. Puis, on a constaté qu'il y avait vraiment un intérêt, un engouement fort envers notre produit, puis qu'il y avait beaucoup de potentiel, que ça répondait à une problématique assez forte. Puis, on a décidé de se lancer en affaires suite à ça, quand on s'est dit, là, ça ne peut pas rester juste dans un portfolio. Il faut essayer de se lancer.
Je veux pas que tu nous racontes dans les moindres détails techniquement comment ça fonctionne, parce que bon, c'est un peu le secret de la caramilk probablement. Mais comment vous faites pour que une carotte puis des plures de patates que tu mets sur ton comptoir deviennent de la petite terre, c'est brunâtre un peu, puis qui sent rien en l'espace de quelques heures? Je veux dire, ça défie les lois de la nature, là.
Bien, en fait, c'est une technologie de séchage et de broyage. Donc, en fait, dans l'appareil, on met nos déchets alimentaires au courant de la journée, au courant de la semaine. Puis c'est quand il est plein qu'on démarre le produit. Puis en fait, grâce à la chaleur puis au broyage, en fait, ça va venir éliminer toute l'eau qui contient nos déchets organiques. Donc, ça vient déshydrater, en fait, les déchets. Puis en mélangeant, mais ça nous permet d'avoir une texture assez fine, là, qui ressemble beaucoup à une texture de thé, si je peux dire. Donc, en enlevant l'eau, ça nous permet de garder tous les nutriments. Donc, on ne brûle pas la matière. On a vraiment un niveau, une température assez qui était déterminée, là, justement, pour s'assurer de garder les nutriments et qu'on puisse utiliser cette matière-là comme fertilisant. Donc, puis c'est ça, c'est en alternance, en fait, la chaleur et le broyage. Fait que ça, c'est la technologie qu'on a développée en soi. Puis, c'est un processus qui est automatique. Donc, il suffit simplement de presser sur le bouton, en fait, pour démarrer. Puis, c'est vraiment les capteurs à l'intérieur, d'humidité puis de température qui vont venir prendre l'information. OK, la matière, elle est sèche maintenant. Mm-hmm. Donc, le cycle peut se terminer.
Ouais. Ce qui est intéressant, en fait, ce qui est fascinant, c'est de constater que dans les deux cas, c'est comme un peu arrivé par accident, votre parcours d'entrepreneur d'impact. J'ai l'impression qu'on a le sentiment que les entrepreneurs qui se lancent pour sauver la planète ont une espèce de but, là, tu sais. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, c'est un concours de circonstances qui fait en sorte que vous contribuez à réduire les gaz à effet de serre puis que vous contribuez à la lutte au changement climatique sur une base quotidienne, finalement.
Oui, et j'ajouterais même que dans mon premier entrevue avec CTV, la première chose que j'ai avouée, c'est que je ne suis pas... j'ai pas de formation en environnement, là. Mm-hmm. Et que mon but, c'est de développer des solutions qui sont pratiques pour les entreprises. Et ce que Elisabeth a juste mentionné, c'est très intéressant. Et au niveau de sensibilisation, c'est aussi très important parce qu'il y a tellement de manque d'informations que vous y croirez pas, là. Quand j'ai commencé à vendre des plats jetables, les gens disent, « Ah, ben, est-ce que tes plats sont recyclables? Est-ce qu'ils sont compostables? Est-ce qu'ils sont bons pour l'environnement? » Mais en même temps, en répondant à leurs questions, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas vraiment de l'information sur ce qu'ils demandent. Alors, ils ne savent pas ça veut dire quoi. Ils ont les mots-clés, mais il y a tellement de gens comme, en tant que consommateurs, qui pensent que compostable, ça veut dire que si on jette dans la poubelle, ça va se désintégrer par lui-même. Mmh. Et ça m'a comme complètement étonnée qu'il n'y a vraiment pas assez d'informations. Alors, avec des initiatives comme Elisabeth, ça va vraiment aider les gens à comprendre. Ça veut dire vraiment quoi, ouais, d'être compostable, c'est quoi recyclable et c'est quoi la réalité qu'on fasse pour pouvoir vraiment résoudre des problèmes.
Bien, c'est vrai parce que, ultimement, ce que les gens, tu sais, étant donné qu'ils ne connaissent pas nécessairement le cycle complet de nos déchets, tu sais, ils mettent ça aux poubelles, puis le camion vient chercher ça, c'est un petit peu de la magie, là, ça disparaît, puis on ne connaît pas l'impact non plus de ça. Tu sais, c'est assez impressionnant, là, quand on voit un site d'empoussement, là, ça, là, c'est. tu vois la tonne de déchets, des matériaux qui sont déversés là-dedans, puis, tu sais, quand tu es chez toi, tu ne te rends pas compte de l'impact, puis l'envergure d'un...
Ben, puis je dirais même, Elisabeth, un peu plus loin, on ne veut pas le savoir. Il y a une part de nous qui se dit, si, tu sais, si je ne le vois pas, je ne le sais pas.
Mm. Ouais, ça, c'est vraiment malheureux. Puis, ultimement, c'est sûr que ça fait partie un peu aussi des fois de notre culture de consommateur. On est une grande société de consommation quand même. Là. Puis, ultimement, ça, c'est des éléments sur lesquels on veut travailler. Mmh. Nous, on veut essayer de sensibiliser les gens à ça, à l'impact de notre consommation, d'acheter, de comprendre un petit peu. Nous, justement, tout le, qu'est-ce qui est gaspillage alimentaire, ça vient directement avec un peu notre mission d'entreprise, un peu sensibiliser les gens à ce qu'on ne doit pas jeter n'importe quoi, d'acheter vraiment en fonction de nos besoins, puis de nos besoins de notre famille, pas acheter en superflu, puis qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut trouver une deuxième vie? Oui, ultimement, deuxième vie dans terreau parce qu'on l'utilise en fertilisant, mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire autre chose avant de mettre en fertilisant? Ça, c'est des éléments sur lesquels, ultimement, on veut travailler.
Cela dit, c'est pas facile, j'imagine, tous les jours d'être une entreprise qui, d'impact, une entreprise qui veut avoir un impact concret sur l'environnement. Est-ce que ça vous est arrivé tous les deux de prendre des décisions qui n'étaient pas nécessairement faciles ou qui pouvaient aller à l'encontre de votre mission?
Ben, tu sais, moi... Ultimement, on est à cœur l'environnement. C'est important que chaque choix qu'on fait, on le prend en compte. Mais quand on développe un produit comme le nôtre, assez complexe, qui nécessite différentes composantes qui ne viennent pas nécessairement toutes localement, puis ultimement, c'est sûr qu'on aimerait travailler à 100% localement, mais en soi, des moteurs, d'autres composantes électriques, ils ne se fabriquent simplement pas ici. Fait que, on doit faire constamment des choix puis d'essayer d'aller chercher la meilleure option, mais, tu sais, ultimement, c'est pas toujours 100% parfait. Fait que ça, effectivement, tu sais, on essaie de comprendre l'entièreté, l'impact de toutes nos décisions. On a même fait une analyse de cycle de vie de notre produit pour vraiment pouvoir identifier, tu sais, sur l'entièreté de fabrication de notre produit, s'il y avait des composantes qui étaient plus néfastes que d'autres, puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans une version future. Parce que là, on a un produit présentement qui fonctionne bien, qui répond aux besoins. Mais là, ultimement, tu sais, il faut continuer dans ce sens-là puis chercher à s'améliorer. Ouais. Mais c'est pas nécessairement simple, si je peux dire.
Michel, des conflits intérieurs, des fois?
Oui. Un des meilleurs exemples que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que, « Ah, regarde, au niveau d'intégration, ce qui rendrait beau peut-être plus facile à intégrer dans la société, ça serait de travailler avec les plateformes de livraison pour la nourriture.
Mmh, alors les fameux Uber Eats,
les Uber du monde, les Skip du monde, etc. Alors, bien sûr que ce sont des conversations qu'on a eues avec plusieurs joueurs, mais il y avait une conversation qui me sort vraiment en tête quand vous mentionnez cela, c'est une compagnie locale. Alors, on ne va pas le nommer. En fait, je ne m'en souviens pas vraiment c'est quoi le nom non plus. Mais alors, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a choisi des plats qui existent déjà sur le marché. Alors, on veut tester la réponse, la réaction des utilisateurs. On veut tester comment ça se passe avec les commerçants. Alors, c'est vraiment un stade exploratoire. Alors, on a trouvé ce qui semble rentrer mieux dans ce qu'on aimerait faire. Alors, on a acheté des plats qui viennent d'une compagnie aux États-Unis. Alors, j'ai communiqué avec plusieurs joueurs, sont tous comme « Ah, ben c'est une bonne idée, on peut regarder tout ça. » Mais il y a une compagnie locale à Montréal qui me dit que « Ah, ben vos produits ne sont pas faits au Québec, alors on ne peut pas travailler avec vous. Mmh. Nous, on c'est important qu'on travaille seulement avec des fournisseurs, avec des produits, avec des services qui sont locaux. » Et j'ai été un peu frustrée parce que je leur ai expliqué que ben, c'est un nouveau concept. Alors, on ne se met quand même pas à investir des centaines de milliers de dollars sur
des moules de plastique,
pour
ça.
Commencer un pilote. Pour moi, c'est juste un test avant de rentrer dedans. Et en fait, vers cet été, on va avoir des produits beaux qui seront fabriqués au Rive-Sud. Fait au Québec.
Félicitations.
C'est super excitant. Merci beaucoup. Alors, on y est rendu, mais ça, c'était vraiment au début, là. C'était quand on a à peine commencé, il y a un an et demi, et on avait des difficultés comme ça, et ça m'a comme fait reculer un peu. Je me suis dit, bien, on devrait tous se soutenir pour
Il faut commencer quelque
avancer.
Part, finalement.
Oui, c'est ça.
Puis ça commence par le financement, et c'est drôle parce que dans les deux cas, vous dites, quand on lit vos parcours, puis moi, ça m'étonne parce que je me dis des entreprises qui ont un impact concret. Je veux dire, il devrait y avoir une file de gens prêts à vous financer. Et pourtant, c'est pas ça qui se passe dans la vraie vie. Michel, toi, tu as connu des difficultés. Puis Elisabeth, vous avez dû vous tourner vers des plateformes de sociofinancement comme GoFundMe pour être capable d'aller au bout, ou Kickstarter, je pense, dans votre cas, pour être capable de financer la création de Terreau. C'est quand même particulier.
Bien, effectivement, là, nous, c'est quelque chose qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de financement qui est disponible pour des entreprises comme nous qui sont dans un secteur manufacturier ou surtout dans les produits physiques. Il y a beaucoup de financement pour les entreprises en logiciel, par exemple, qui développent des applications, mais tout ce qui est hardware, il n'y en a pas beaucoup. Quand on s'adresse aussi directement aux consommateurs comme nous, notre clientèle, nous, c'est les consommateurs, mais il y a aussi pas nécessairement beaucoup de financement puisque ça représente plus de risques pour des investisseurs ou des fonds d'investissement. Fait que ça, c'est quelque chose que nous, on ne s'attendait pas nécessairement. Puis, ultimement, quand on cogne à des portes pour pouvoir aller chercher du financement pour le développement d'entreprise puis la croissance, bien, c'est pas disponible là, comme ça. Là. Donc, ça, c'est une réalité, en fait, qui quand on parle avec différents financiers qu'on constate. Mais malgré tout, je pense que la mission qu'on a d'entreprise permet quand même d'aller chercher du financement, mais
puis vous n'avez pas eu de misère en vendre, hein? Des produits, votre campagne de sociofinancement a été un immense succès.
Oui, effectivement. Sur Kickstarter, en 30 jours, on a vendu pour 1,75 million. Ça représente 4300 personnes qui ont cru en nous.
Maintenant, il faut les livrer.
Oui. Effectivement, ça, c'était un autre défi, si je peux dire, surtout quand on a une pandémie qui arrive 3-4 mois plus tard, puis qu'une chaîne manufacturière qui est complètement chamboulée. Donc, c'est jamais simple, hein, l'entrepreneuriat. Non, là, c'est ça.
C'est ça. Il y a toujours quelque chose dans la chaîne qui ne fonctionne pas.
Toujours des défis.
De ton côté, ouais. Michel, quand je lisais la pré-entrevue, tu disais on était même surpris à un certain point de voir des... Développement économique Canada et d'autres gros joueurs comme ça s'intéresser à nous. C'est comme si vous ne vous laissiez pas le droit d'être une entreprise intéressante sur le plan financier?
Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les entreprises en démarrage, c'est un peu différent parce qu'en moitié, tu vends une vision.
Ouais.
Et avec Beau, ce qui est compliqué, avec des plats réutilisables, il y a toute une logistique, il y a beaucoup de... Comment on dit ça?
Il y a une chaîne de valeur qui est quand même compliquée.
C'est ça. Alors, on parle de plats physiques. On parle de développement d'un appli web pour la technologie, pour la gestion.
Ouais.
On parle d'un local physique pour des installations de lavage.
Ouais.
On parle de vente. On parle de marketing. Alors, il y a beaucoup... c'est un gros projet. Alors, des étapes financières solides, c'est dur à y aller chercher des montants significatifs via les institutions traditionnelles. Alors, beaucoup de remerciements à PME Montréal, à BDC, pour vraiment être là pour des entreprises comme nous, pour vraiment voir à quel angle on peut y aller pour réaliser la mission. Parce qu'en fait, c'est une mission, mais ça doit être une mission rentable.
Est-ce que vous diriez toutes les deux que c'est peut-être plus compliqué de se lancer en business pour sauver la planète, finalement?
Je pense que ça soit pour sauver la planète ou autre secteur, je pense que se lancer en affaires, c'est complexe. Là. C'est pas être conscient de ça. Je pense que tu es là pour résoudre des problèmes. Puis, comme entrepreneur, c'est ton rôle de faire dans l'entreprise. Oui, je pense que c'est un bon défi, mais en soi, tu sais, c'est tellement motivant quand tu comprends l'impact que tu peux avoir.
Mm-hmm.
Puis le fait vraiment, tu sais, de savoir, tu sais, nous, pour moi, de savoir qu'on peut aider des milliers de gens à faire leur part pour l'environnement quand ils se sentent complètement impuissants et qu'ils ne savent pas trop par où commencer. C'est sûr que tu sais, ça vaut de l'or, là, puis c'est motivant et valorisant pour nous de faire ça.
Michel et Elisabeth, peut-être qu'on peut se laisser sur cette question-là. De quoi est-ce que vous avez le plus besoin en ce moment? Qu'est-ce que, si je vous demande de fermer les yeux puis de faire un souhait, là, je vous donne quoi?
Ce qui est intéressant avec Beau, c'est qu'au début, on pensait seulement que c'est un business où on doit penser au B2B pour les entreprises et on parle de B2C pour les consommateurs qui sont les utilisateurs des plats. Mais un élément qu'on n'a pas vraiment réaliser à quel point c'est important, c'est au niveau gouvernemental. Alors, le fait qu'il y a des gens qui cognent à la porte, qui m'envoient des courriels, qui m'envoient des demandes chaque jour des semaines passées, là, c'est à cause qu'il y a des interdictions gouvernementales. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous à cause que le coût de
Juste qu'on comprenne, des interdictions gouvernementales pour les restaurateurs d'utiliser des plats qui ne se recyclent pas.
Exactement. Alors, avec les lois qui bannissent certains articles à usage unique, ça force les gens à vraiment à penser à des solutions.
Mais ça, c'est bon pour votre business.
C'est bon pour notre business, mais ce qu'on n'a pas rendu compte, c'est le problème, c'est que tout le monde sait que c'est pas une bonne chose de jeter les choses après un usage. Mm-hmm. Mais ils ne réalisent pas qu'il y a un coût réel dessus parce que c'est quelque chose qui sont cachés dans nos taxes. Alors, le gouvernement, eux, ils savent à quel point ils dépensent beaucoup d'argent pour la gestion des matières résiduelles. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que les entreprises, que les consommateurs ressentent, là. Alors, quand vous leur dites que il y a des économies réelles dedans, ce n'est pas quelque chose qu'ils aperçoivent. Alors, je pense que le souhait que je ferais, c'est de vraiment voir comment coordonner tous ces efforts gouvernementaux. À part de bannir certains articles, c'est un bon départ, mais c'est aussi coordonner les efforts, comment implémenter la solution. Alors, d'un côté, non à certains objets. D'un côté, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour transitionner vers une solution qui peut grandir à échelle dans notre société?
Peut-être des plats subventionné ou avec un petit peu de subvention derrière, ça pourrait aider.
On dirait jamais non aux subventions.
On dirait jamais non.
Le courrier, c'est...
on se souvient du nom de Beau. On saura quelle porte cogner. Elisabeth, toi, si tu fermes les yeux, qu'est-ce qu'on te souhaite?
Moi, c'est sûr que, tu sais, justement, on l'a mentionné un petit peu tantôt, là, nous, on a vécu quand même des retards dans nos livraisons auprès de nos clients dans la dernière année, puis tout ça. Puis, ultimement, là, ça, tu sais, j'ai tellement hâte que tous nos clients qui ont commandé leurs produits, qu'on puisse passer à travers notre carnet de commandes, livrer tout le monde, puis enfin être disponible là, pour les gens qui s'intéressent à Terreau maintenant, qu'ils puissent le recevoir en quelques jours seulement. Mm-hmm. Donc, ça, là, c'est vraiment...
Et c'est quand la
ça
date...
Ça va être une bonne étape pour nous.
La date fatidique, est-ce que ça s'en vient bientôt?
C'est difficile à dire parce qu'on a encore des défis. C'est pas tout réglé. En fait, ça va être au courant là, des prochains mois. Là. D'ici la fin de l'année, c'est sûr que c'est terminé. D'après moi, ça va être autour de l'été, là. On se croise les doigts qu'il n'y ait pas de nouvelles choses qui apparaissent.
On se croise les doigts pour vous autres aussi, ta collègue et toi. Ça a été une super rencontre. Merci d'avoir été toutes les deux à notre micro cette semaine. Elisabeth Coulombe, bon succès. Michel Wang, bon succès également. Et merci d'avoir été toutes les deux avec nous.
Merci Laurent, c'était un plaisir. Merci Elisabeth.
Oui, merci à vous deux, c'était très fun.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean.
C'est la plus importante faillite dans le secteur bancaire depuis la crise de 2008. C'est la débandade de la Silicon Valley Bank qui retient l'attention depuis les quelques derniers jours. On va en parler avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean. Bonjour, Jimmy.
Bonjour.
Alors, c'est un signal inquiétant parce que, des banques forcées de mettre la clé dans la porte, ça fait longtemps qu'on a vu ça puis on sait ce qui s'est passé par la suite. Rappelle-nous les grandes lignes de ce qui s'est passé au cours des derniers jours.
Oui, tout à fait. En fait, Silicon Valley Bank, c'est une banque, mais c'est une banque qui est assez spéciale. Hein? C'est une banque pas comme, c'est pas comme Desjardins, c'est pas la Banque nationale, c'est pas comme les banques qu'on connaît.
Ouais.
C'est une banque du secteur technologique américain. Donc, les déposants, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est des entrepreneurs, des startups, des petites entreprises qui déposaient leurs fonds là-bas. Puis, la banque en question, elle faisait des prêts, oui, mais beaucoup des actifs ou des montants qu'elle récoltait, elle les plaçait ça dans des obligations du Trésor, des obligations du Trésor américain à très long terme. Or, ces obligations-là ont perdu énormément de valeur avec la montée des taux d'intérêt. Donc, la valeur, si cette banque-là allait vendre ces obligations-là, qu'elle était capable de récolter, allait être fortement compromise. Or, C'est les déposants, donc les petites entreprises du secteur technologique. C'est un secteur où est-ce qu'il peut y avoir des pressions sur la liquidité assez importantes, soit pour payer des fournisseurs, pour payer des employés. Donc là, on était dans un environnement où il y avait des demandes sur la liquidité. Ça forçait la banque à liquider ses actifs, mais à des prix fortement dépréciés. Et ça a rapidement amené là, la banque dans une situation intenable. Là, ça a commencé à se savoir. Donc, évidemment, tout le monde voulait sortir son argent de là. Mm-hmm. Et ça n'a pas été long que la banque a fait faillite. Donc, c'est un cas très isolé à cause de la structure même un petit peu défaillante de comment cette banque-là était constituée puis aussi comment elle gérait ses risques.
Bon, un cas isolé, je l'entends, mais qui a des répercussions qui sont loin d'être isolées. Ça se rend jusqu'à la politique monétaire américaine. Pour la Réserve fédérale qui voit cet événement-là se produire, c'est comme un morceau de casse-tête de plus dans déjà cet immense casse-tête qui est l'économie américaine en ce moment.
Oui, absolument, parce que faut quand même garder à l'esprit, même si la Réserve fédérale, son mandat, c'est de stabiliser l'inflation, c'est le plein emploi, mais c'est aussi d'assurer le bon fonctionnement du système financier américain. Quand il arrive un enjeu comme ça, c'est elle qui est en position de devoir prendre des décisions pour éviter que ça se propage et qu'il y ait une perte de confiance dans les banques américaines. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on se ramasse en crise financière. Elle a pris des actions très musclées, Laurent, en fin de semaine, pour pouvoir justement enrayer le risque que finalement, il y a d'autres banques qui connaissent des difficultés. Et donc, en permettant à des banques qui sont dans des positions similaires de pouvoir accéder à des fonds à la Réserve fédérale en mettant leurs obligations en contrepartie et être capable d'avoir les pleins fonds pour rembourser des investisseurs qui voudraient retirer leurs dépôts. Et ça vient tout de suite éliminer ou diminuer beaucoup la crainte qu'il y ait une faillite bancaire. Donc, elle a pris les bonnes mesures et là, heureusement, au moment où on se parle, les marchés sont revenu un petit peu à leur sens. Il y a une accalmie, ça s'est parvenu à ramener un petit peu de confiance sur les marchés. Mais en même temps, ça illustre le risque que s'il y a d'autres enjeux comme ça qu'on ne connaît pas, que finalement les hausses passées qui ont été très agressives finissent par avoir du dommage, causer des dommages sur le tard à l'économie. Donc, c'est pour ça que je pense que la Réserve fédérale va être un petit peu plus prudente. On va augmenter les taux, mais peut-être un petit peu moins que ce à quoi on s'attendait. On parle de peut-être deux autres hausses cette année au lieu de trois, comme on s'y attendait auparavant.
Ah, c'est fascinant de voir comment tout est interrelié, finalement. Je te laisse partir dans quelques secondes, mais je veux t'entendre sur les tout derniers chiffres là, qui sont sortis sur l'inflation. Il y a rien qui bouge, finalement. C'est difficile de faire descendre l'inflation.
Et c'est exactement ça, parce qu'il y en a avec la Silicon Valley Bank qui pensaient même que la Fed allait baisser les taux. Mais il faut faire attention, l'économie reste en surchauffe. Et là, oui, on a eu des chiffres qui montrent que l'inflation est encore à 6 %. Puis l'inflation fondamentale, ce que la Fed surveille tout particulièrement, ça ne va pas nécessairement dans le bon sens. Ça se modère trop lentement au goût de la Réserve fédérale. Donc, ils n'ont pas le choix. La semaine prochaine, il va falloir qu'ils continuent d'augmenter les taux.
Aïe, aïe, aïe. Va-t-on en sortir? Jimmy, merci de tes lumières. C'est toujours apprécié.
Au plaisir, Laurent.
À bientôt. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que cet épisode vous a fait rêver un peu sur les possibilités qu'offre l'entrepreneuriat. C'est quand même extraordinaire, non? Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tinguy et nos épisodes sont enregistrés chez Studio Edgar à Montréal. Notre technicien est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de balado de Cogeco Média, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Thérien. Encore un grand merci d'avoir été avec nous cette semaine et on se reparle la semaine prochaine.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.